Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter.
En direct du studio 511, une émission réalisée par Jérôme Chélius, assistée de Lucie Spindler, avec à la technique aujourd'hui Florent Beauvalet et Philippe Duclos.
Au sommaire cette semaine, à Hayange, quand la mairie FN ferme le secours populaire, et à Bobigny, un sociologue au tribunal.
S'il n'y a pas de solidarité, là on peut dire que tout est foutu.
Tout est par la lutte.
Non,
il n'y a que ceux qui luttent qui gagnent.
On s'est pas assez défendu, on n'a pas été assez vigilant. On peut s'en prendre qu'à nous. Mon Dieu.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Lutter et battre le pavé devant le tribunal pour obtenir justice. Oui, on s'y retrouve de plus en plus souvent sur le trottoir devant les tribunaux pour accompagner des syndicalistes, des travailleurs, des militants, des lanceurs d'alerte qui doivent se défendre et défendre le droit de manifester contre la loi travail, de travailler, de dénoncer les paradis fiscaux. Par exemple, la semaine dernière, c'était devant le tribunal de Grenoble avec les Écoplats pour éviter la liquidation pure et simple de leur entreprise et de leurs emplois. La semaine prochaine, les 18 et 19 octobre, c'est les Goodyears qui appellent à se rassembler devant le tribunal d'Amiens quand 8 ex-salariés vont passer devant la cour d'appel en première instance. Le 12 janvier dernier, ils ont été condamnés à 9 mois de prison ferme alors qu'ils se battaient contre la fermeture de leur usine. L'affaire LuxLeaks, c'était en juin, de la prison avec sursis pour les lanceurs d'alerte qui voulaient dénoncer l'évasion fiscale. Il y avait du monde aussi devant le tribunal luxembourgeois pour les soutenir. Et toujours plus de répression et d'intimidation policière dans les manifestations contre la loi travail quand le gouvernement dégaine le 49-3. Avec Guy Ventil, on ira justement devant le tribunal de Bobigny accompagner Nicolas Jounin, sociologue, et accusé d'avoir frappé un policier. Ah oui, ne pas oublier le 8 décembre, Loïc Canitro de la compagnie Jolimôme qui paye cher sa participation non violente à l'occupation du siège du MENEF en juin dernier, pendant Nuit Debout. Voilà l'agenda des luttes à venir devant les tribunaux et peut-être aussi très bientôt ce sera à Hayange en Moselle pour sauver le secours populaire puisque le maire Front National d'Hayange donc vient de lancer une procédure d'expulsion pour déloger l'association des locaux municipaux. On y va tout de suite avec Charlotte Perry. C'est comme un bruit qui court jusqu'à 17h sur France Inter.
Antoine Chao.
Charlotte Perry.
Comme un bruit.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonjour.
Bonjour.
Vous pouvez m'expliquer où on est là ?
On est au bar d'Europe, le café où je viens souvent. C'est à Hayange, au centre d'Hayange quoi.
Vous appelez comment ?
Pascal Grune. Là pour l'instant je suis en recherche d'emploi.
Et sinon vous travaillez à la mairie aussi ?
Je ne travaille pas à la mairie, je suis élu à la mairie. Je suis conseiller délégué culture et vie associative. C'est pas évident de s'implanter dans une petite commune, à 16 000 habitants quand même, de s'implanter FN, quoi. Hein. Après, bon, moi j'ai l'étiquette, on a tous l'étiquette, mais moi on est là pour les habitants, quoi. On a avancé, on a fait du travail quand même.
Qu'est-ce que vous avez fait par exemple ?
On a refait les rues au Conaker, les rues à Machepi. On a refait un peu le centre-ville plus propre, on a repas les barrières, que les gens ils sont contents, quoi. Ouais, on a refait les cimetières.
Tout ça, ça fait plaisir aux gens ?
Ben oui, bien sûr que les anciens, quand ils vont voir au cimetière, quoi, à l'époque, ils allaient, il y avait des trous, ils ont failli tomber plusieurs fois. Donc on a refait quelque chose de bien pour les anciens.
La fameuse fête du cochon.
La première année, il y avait 1500 personnes. La deuxième année, 3000. Là, c'était la troisième année cette année, 5000 personnes.
Il y en a qui disent que derrière la fête du cochon, il y a quand même un peu une notion identitaire de musulman.
On peut être Front National, mais moi, on n'est pas raciste. Les racistes, les sectaires, c'est les autres. Ils vont se plaindre à la Libération, ils vont se plaindre là dans les journaux, mais il faut venir voir la vraie vie, quoi. Hein. C'est pas un goulag ici non plus, hein. Faut pas abuser non plus, quoi. Les gens sont heureux, sont contents quand on fait des fêtes.
Et alors là, récemment, il y a eu tout le problème autour du secours populaire, là où le maire voulait, veut l'expulser des locaux.
C'est des communistes, alors. C'est pas le secours, on veut pas fermer le secours populaire. Le problème, c'est ceux qui le dirigent. C'est comme le gouvernement, c'est pareil. On ne veut pas la France entière, hein. On en veut au gouvernement parce qu'il ne faut rien.
Eh bien voilà, il a tout dit Pascal Grune, adjoint à la mairie d'Hayange. Dans cette ville sinistrée de la vallée de la Fensch où le chômage frôle les 17%, les gens ont besoin qu'on les écoute. Ici, les promesses non tenues des politiques de tous bords ont laissé un goût amer. Nicolas Sarkozy à Gandrange, François Hollande à Florange. Et c'est aujourd'hui le sentiment d'abandon et de trahison qui domine. C'est à cette France des oubliés que s'adresse Marine Le Pen. Et ça marche parfois. En 2014, les Hayangeois ont élu Fabien Angelman, ancien leader cégétiste, passé de lutte ouvrière au NPA, puis au Front National, le jeune employé municipal joue la carte de la proximité. Il rassure, écoute, dorlote son électorat à coups de petites intentions. Ça coûte pas cher et ça fait plaisir. Mais gare à ceux qui osent critiquer le populisme de la France aux Français, comme le Secours Populaire qui en fait aujourd'hui les frais. On ira aller voir aussi les bénévoles du Secours Pop. Mais tout de suite, on va retrouver Pascal Grune au bar de l'Europe, car c'est ça le nouveau visage du Front dans les territoires oubliés. Des gens simples qui répondent aux préoccupations, des gens simples, loin des grands discours des élites et des privilégiés. Des gens qui nous ressemblent et qui ressemblent aussi parfois à nos idoles. Là, tout le monde est sorti pour fumer une cigarette.
Ah oui, oui, oui.
C'est moi ou vous avez un faux air de Johnny Hallyday, Pascal?
Voilà, tout est dit. Bah, c'est mon surnom, hein. Johnny.
Ouais.
Ah oui.
Vous la veste.
Ah, J-H, il y a un petit écusson.
Eh oui.
Tu vas pas se déshabiller, mais il y a même les tatouages.
Voilà.
À force de faire, voilà. Au début, on m'appelait comme ça, même à l'usine, on m'appelait comme ça. J'ai mon look. C'est pas ma faute si j'ai des ressemblances.
Comment vous êtes retrouvé, vous, sur la liste de Fabien Angelman?
Je le connais depuis qu'il est tout petit. Hein. Ouais. Voilà, mais on se fréquentait sans plus. Puis après, il se baladait ici. Il est venu au café. Il m'a dit, ça t'intéresse sur la liste. Je lui ai dit, ouais, pourquoi pas, voilà. J'étais... pour lui faire plaisir, quoi, en fait, quoi. Après, il me dit, ton ami, elle fait quoi? Je dis, ben, elle est dans la quota. Elle, il veut pas venir. Je dis, hop, et puis elle est venue. Mais je pensais pas qu'on sortirait, franchement. Et puis, on se débrouille bien, franchement, on se débrouille bien.
Mais sinon, faut aller où, alors, sur Hayange?
Le soir, c'est fait, il n'y a pas grand-chose, le soir. Hein. Franchement, oui, tous les restaurants sont fermés.
À part la média...
Ouais. Ça a toujours été comme ça, ou...
Ben non, mais ça fait depuis une dizaine d'années, hein. Il n'y a plus de sous, hein. Et les usines ne donnent plus de sous à...
Tout qui a fermé,
voilà.
Hein. Merci Hollande.
Vous venez dans les années 60, ici, ils sortaient tous. La ville était, même alors là, c'était bourré, c'était plein.
Depuis qu'Arcelor a fermé.
Sarkozy, hein.
D'accord, il y a 40%, ailleurs, je crois, il y a 40% qui ne travaillent pas, de gens qui ne travaillent pas, à peu près.
C'est beaucoup.
Ouais, c'est beaucoup, hein. Après, ils ont RSA pour vivre avec une famille, un gosse de gosse. C'est pas évident. Hein.
Il y a 40% des gens qui ne travaillent pas ici.
À peu près 35-40%, je crois, ouais. C'est pas évident de faire vivre après une commune de 16 000 habitants. Après, il y a les taxes et tout ça à payer. Les gens, ils ont du mal. Il y en a plein qui partent pas au mois d'août. Hein. Donc, on fait des choses pour eux, quoi. Les gens n'ont plus de sous. Hein.
Bon. Bon, ben, merci beaucoup, en tout cas.
Voilà.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Je vais aller, merci. Inspecter.
Bon,
je vais voir. Au revoir. On remonte la rue du Maréchal Foch, la rue principale d'Hayange. C'est assez impressionnant parce qu'il y a énormément de choses qui sont fermées. Le Angel Café, complètement fermé. Achetez-moi. Il y a des kebabs. Quelques salons de coiffure. La pharmacie des mines, fermée aussi. Le Central. Bar PMU.
Mademoiselle, vous voulez parler de choses, pas qu'après vous détaillant, je sens radin ou machin. Prenez ce que vous voulez.
Bah, je veux bien un café, alors s'il vous plaît.
Je veux bien un café pour mademoiselle.
Ici, c'est le bar central hein, de Hayange.
Hôtel central. Avant, c'était un hôtel avant. Un hôtel avec un restaurant. Ça a marché des bonnes années, mais aujourd'hui, bon, ça ne marche plus. Vous voyez que tout Hayange ferme. Hein. Les magasins ferment au fur et à mesure.
En haut de la rue, là, tout est fermé.
Tout est fermé. Je me rappelle toute la bonne époque. À l'époque, il y avait des... Il y avait, je ne sais plus combien de cafés ici à Hayange, là. Il n'y a pratiquement plus rien. Tout est fermé. Il y avait des dancing, il y avait un peu tout, là.
Ça, c'est lié à la fermeture de tous les hauts fourneaux.
Ah ben, tous les hauts fourneaux, ça, c'est logique.
Hein. Merci.
À l'époque, je me rappelle, ici, il y avait avec 35 bus. Donc, il y a des gens qui venaient un peu de partout, même de Beauzaville. En plus, il y avait un petit train qui partait d'ici d'Hayange et il allait jusqu'à Florange, avec le train des voyageurs. j'allais de l'autre côté, là, près de la barrière, là. Il y a Aiki. C'est là que les gens partaient vers Florange.
C'est impressionnant, hein, quand on rentre dans la ville et qu'on voit ces énormes hauts fourneaux éteints.
Oui, de l'époque, mais il fallait voir avant comment c'était. Il y avait 4 hauts fourneaux là-bas, il y avait 6 hauts fourneaux ici, là. Il y avait les 5K aussi, il y avait aussi 3-4 fourneaux là-haut.
C'était quand, c'est à quelle époque?
Bon, les années 60-70. Après, tout doucement, ça commence à fermer, les 5K, les hauts fourneaux de Yonche, puis ça continue vers la suite, avec Mittal qui est arrivé et qui a fait le reste.
Qui a fini d'achever la
région. La région. J'ai connu toutes les bonnes époques parce que j'y ai travaillé. Alors.
Vous avez travaillé
J'ai travaillé à Pâtural, remonté à Yonche, j'étais jeune fondeur. Et puis quand ça commence à fermer, bon, je suis parti à la mine, travailler à la mine. Puis fermeture. Et puis tout doucement, nous avons mis en pré-retraite. Jeune retraité.
Vous êtes retrouvé à la retraite à quel âge?
46 ans.
Et après, voilà, vous avez fait comment pour vivre?
Eh ben, ils m'ont laissé en dispense d'activité jusqu'à mes 60 ans. Vu que j'étais batteur bâtiment, après j'étais coureur zagueur, j'ai fait tous les corps de métier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, je travaille encore.
Là, aujourd'hui, alors, vous rénovez l'hôtel au-dessus du PMU, là.
Oui.
Et ça, c'était l'hôtel, en fait, où étaient hébergés les réfugiés.
Oui, la région qui les a placés, hein, le Chocas.
Et pourquoi ça a fermé, alors?
Ben, c'était insalubre, alors ils ne sont pas embêtés, ben, fermeture administrative. L'autre a saisi l'occasion pour fermer.
L'autre, c'est le maire.
Oui, l'autre, c'est le maire. Il a saisi l'occasion pour qu'il puisse débarrasser tous les réfugiés. C'est qu'au populaire, c'est fermeture aussi. Hein.
Et pourquoi vous pensez qu'il a été élu, le maire?
Les gens, ils en avaient marre. Disons avec les immigrés, tout, c'est pour ça que ça a été voté de ce côté-là. C'est plutôt les anciens qui ont voté pour lui.
Il y en avait beaucoup des réfugiés ici?
Non, il y avait quoi, 70 personnes. C'est pas énorme, hein.
Et ça posait des problèmes ou...
Non, pas du tout. Mais en fait, disons que ça posait des problèmes au maire, les gosses ils jouaient sur la place de l'hôtel, lui, il les chassait. Donc ça leur posait des problèmes. C'est incroyable, mais c'est comme ça.
Vous appelez comment? Un prénom?
Non, laissez tomber mon nom. Sinon, il va vite me reconnaître.
Et il y a tout le monde qui est en train de regarder, c'est les courses épiques.
Ah, 6.
Oh, je suis là-bas. Dis-moi là-bas.
T'as pas joué le 5? T'as pas pensé à moi?
Ça s'est bien rempli, là, le café, tout d'un coup. Il y a plein de monde qui est là.
Ah ben, ils jouent tous le café, puis ils s'en vont. On arrive déjà le 12, déjà la paye commence déjà à diminuer.
Le 12 du mois déjà.
Ça devient. Bah ici, la vie est très dure. Hein. La plupart ils ne travaillent pas. Hein.
Bah merci. Au revoir. Bonne journée, merci.
Allez, au revoir. Hein.
Au revoir.
Ouais.
Au Secours Populaire.
Ah ouais, à Machpi.
Ouais, à Machpi, ouais.
Bonne journée.
Merci, vous aussi. Au revoir.
On vit une époque formidable. Dans un monde merveilleux, une impression désagréable d'être toujours hors du jeu. De plus en plus de misère, des vieux les jeunes foudroyés, pendant qu'une armée de dignitaires,
monsieur le président,
nous font leur show à l'Assemblée.
Mesdames et messieurs,
on vit une époque formidable.
Je veux rappeler que mon ennemi, mon adversaire, c'est le Front National.
C'est pas la finance.
On vit une époque formidable.
C'est aujourd'hui l'arrêt définitif des hauts fourneaux de Florange. Beaucoup d'émotions dans la région à Hayange.
On vit une époque formidable.
La vallée de la Fench, de Florange à Hayange, l'ancien bassin minier sinistré.
On vit une époque formidable.
Sinistré.
Quand je vois comment on a travaillé, qu'est-ce qu'on a fait.
Sinistré. La vallée de la Fench.
Maintenant, il ne reste plus rien. Bah, c'est pas normal, ça. Hein.
Mon adversaire, c'est pas la fille.
On vit une époque formidable.
Par un bruit qui court.
Vous êtes pas des Yanges?
Non, on est de Metz. C'est la première fois que je viens dans ce centre. Ça fait bizarre. Le Secours Popu n'est plus indiqué sur le bâtiment. Donc ça fait ambiance.
Vous appelez comment?
Sylvie.
Sylvie Ognier. Et vous, alors, vous êtes bénévole au Secours Populaire à Metz?
Tout à fait.
Là, on est en train de passer devant la gare. Voilà. Et sur la droite, là, c'est les hauts fourneaux éteints. Là,
qui est... De la sidérurgie, c'est là que je dois aller. On va vers Marspiche. Oui, ça, c'est les hauts fourneaux du Patural. Il y a tellement de gens qui se sont retrouvés sans emploi, en grande difficulté, de l'intérêt de cette annexe où on voit encore indiqué Resto du Cœur, mais plus du tout Secours Populaire.
C'est donc, les mêmes locaux.
Sont les mêmes locaux.
Et on est arrivé donc à Marspiche, qui est un quartier annexe de Hayange.
Voilà. Ça a l'air complètement fermé, mais ça ne l'est pas. Il y a des grilles, mais... C'est ouvert.
C'est pas un bâtiment de grand luxe hein, qu'ils vous ont alloué la mairie?
Ben, il ne semble pas, mais ça fait longtemps qu'il existe et qu'il a été mis à disposition.
Ah, c'est vrai qu'on voit Secours Populaire qui a été effacé, ça, on voit encore les lettres, mais ça a été effacé.
Ça date d'aujourd'hui. Nous nous en rendons compte aujourd'hui.
Bonjour.
Bonjour madame.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au
revoir. Merci.
Bonjour.
Bonjour.
Je suis pas du tout d'accord.
Bonjour.
Alors moi je suis Marie-Françoise Tull, donc présidente du Secours Populaire pour la Moselle.
Là j'ai vu qu'en arrivant le Secours Populaire ça avait été effacé de l'entrée de...
Oui j'ai vu ça. Ça me désole profondément parce que c'est quand même assez mesquin.
Alors dites-moi là, en fait, qu'est-ce qui se passe depuis la fin du mois de septembre ici au Secours Populaire à Hayange?
Alors je ne peux pas dire que ça ne change pas grand-chose, parce qu'en fait ça change beaucoup de choses.
C'est le maire qui veut vous expulser.
Oui, c'est ça, le maire veut nous expulser. Nous, on continue d'aider les personnes. Nous sommes vraiment une association humanitaire. Il y a tellement à faire que je trouve que là, vraiment, on perd son temps avec des querelles qui sont idéologiques et qui n'ont pas lieu d'être. Et je pense qu'un maire devrait avoir à cœur d'être un lien social plutôt qu'un diviseur. Et je pense aussi que le rôle d'un maire, c'est justement de regarder d'abord ceux qui souffrent. Donc pour ces gens qui souffrent, il faut que les choses se calment.
Il y a 800 bénéficiaires ici. Hein.
Oui, tout à fait, dont plus de 350 enfants quand même.
Et le maire, alors vous accusez d'être pro-migrant et une succursale du Parti communiste, c'est ce qu'il a dit dans son communiqué.
Oui, donc on voit bien, c'est tellement excessif qu'on voit bien que ce sont des prétextes. Nous avons 2,5 millions de bénéficiaires sur toute la France. Nous avons plus d'1 million de donateurs. Nous n'avons rien à voir avec un parti politique. Nous sommes une association humanitaire. Notre devise, c'est tout ce qui est humain est nôtre. Voilà.
Bah oui. Waouh, il a ses quelques chaussures là. Oh là là, c'est pour faire des matchs. Ça pue. Là, si ça pue, on jette. Oh, quelle horreur.
D'abord, votre réaction, est-ce que vous soutenez le maire d'Hayange?
Oui, parce que si vous voulez, moi, on n'a rien du tout contre le Secours Populaire.
Moi, que les choses soient claires, nous n'avons rien contre le Secours Populaire. Il y a un vrai problème avec les sections locales, qui souvent sont extrêmement politisées, qui en réalité ne font pas d'humanitaire, qui font de la politique. Eh bien, il faut qu'ils s'appliquent la neutralité. C'est, je crois, ce que réclament les Français.
La vallée de la Fench, sinistrée.
Vous êtes assis là à votre bureau, ça a ouvert déjà là?
Oui, c'est ouvert. Alors, il y a des gens qui viennent s'inscrire et en même temps, ils font un tour dans le vestiaire et ils peuvent acheter des habits pour 50 centimes. On les donne plus gratuitement. On l'a fait tout au début, on les donnait comme ça. Mais les gens remplissaient des sacs plein. Puis après, ils allaient en bas, ils triaient. Ils nous mettaient tout ce qui ne leur plaisait pas et nous laissaient devant la porte. On a dit, on ne peut pas continuer comme ça. Hein. Alors, on a demandé une somme très modique pour marquer le coup, pour dire qu'ils venaient acheter. On ne leur faisait pas la charité, vous voyez. Nous, c'est un mot qu'on ne connaît pas au Secours. Pour nous, c'est la solidarité. Et donc, on a mis des prix. Bonjour.
Ah, c'est les sacs de vêtements qui arrivent, de chaussures.
Allez, tenez bon. Hein.
Merci.
Vous êtes venu donner des vêtements?
Oui, j'ai eu besoin du Secours Populaire à un moment de ma vie. Un problème d'emploi. Puis, il faut bien trouver de quoi vivre. Et puis, grâce au Secours Populaire, j'ai pu nourrir mon fils. Et puis, maintenant, je suis sorti de tout ça. Et c'est la plus belle chose qui est, jusqu'à ce qu'on apprenne qu'on veut faire partie du Secours Populaire. Moi, j'ai pu vivre grâce à un moment donné au Secours Populaire. Et jamais je n'abandonnerai le Secours Populaire. C'est même mon fils qui m'a dit, on ramène les habits. Même les enfants sont touchés quand il a vu ça là, aux infos. Qu'est-ce qui nous restera si personne n'est pour aider les gens qui ont besoin? Pas question qu'ils partent. Je me battrai avec eux.
Le maire, il dit qu'ils sont trop pro-migrants et que c'est une succursale du Parti communiste.
Il n'y a jamais eu de propagande. On m'a jamais parlé politique. Jamais. C'est juste pour nourrir des gens. Et nourrir des habillés. C'est tout.
Vous, maintenant, vous travaillez?
Oui.
Vous travaillez dans quoi?
À sécurité.
Vous aviez voté pour le maire ou...
J'habite à Neufchâteau. Donc je vote à Neufchâteau. Et je ne suis pas spécialement pour le maire. J'hésite à le dire. Hein.
Ah bah, y a tout le monde. Allez, au revoir. Bonne continuation. Et merci. Hein.
Au revoir.
Les réfugiés du centre-ville, les kebabs et les boucheries halal.
C'est là-dessus qu'il a été élu.
En grande partie, oui, bien sûr.
D'abord, votre réaction, est-ce que vous soutenez le maire d'Ayange?
Moi, on n'a rien du tout contre le Secours populaire.
Vous vous appelez comment?
Alors moi, c'est Béatrice Schweiker.
Madame Schweiker, c'est la fondatrice du Secours populaire. C'est elle qui a fondé ce comité d'Ayange il y a...
En 78.
Voilà.
Et j'ai passé la main maintenant à la copine de mon fils, qui est trésorier de l'association, et sa copine, et il rentre ce soir. Hein.
C'est pour ça qu'ils ne sont pas là. Alors, et là, récemment, qu'est-ce qui s'est passé avec le maire? C'est quoi cette...
Notre présidente, elle a fait un article. Il s'est buté hein, sur cet article là, qu'elle a fait dans Libération. Il a traité mon fils de anarcho-communiste. J'ai dit à mon fils, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Il dit, mais je ne sais même pas ce que ça veut dire, ce mot-là. Alors, la présidente, Anne, et puis mon fils, les deux, là, ils sont sur la liste noire de Monsieur le maire. Et alors, du coup, on n'a pas de subvention. On n'a plus les camions, parce que nous, on a un camion de la ville qui allait le mardi à Metz chercher l'alimentation. C'est des boîtes de conserve et tout ça, c'est très lourd. Alors, ils nous prêtaient donc un élévateur et à fin de nuit pour rentrer toute cette marchandise. Et tout ça, on l'a pu.
Depuis cette histoire,
on n'a plus rien, on n'existe plus pour lui.
Et vous, vous étiez là quand il est venu pour récupérer les clés, là?
Oui, 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 j'étais devant la porte aussi. Moi, j'étais, ils m'ont mis une chaise parce que je tiens plus debout comme il faut. Eh bien, il n'est même pas venu, lui, pour prendre ses clés. Il a envoyé l'huissier. Finalement, quand il a pu passer à travers la foule, arriver près de nous, il a dit, ben voilà, j'ai été habilité à venir chercher les clés. Alors nous, on a dit, on ne les donne pas. Alors il a dit, bon, ben, c'est bien, j'en prends note. Et puis, il est parti. Anne, elle a pris, la présidente qui est maintenant, Anne, elle a pris un avocat. Et donc, on va voir qu'est-ce que lui va nous conseiller.
Il a cultivé quand même les atrocités, quoi, entre le patrimoine de l'histoire des mines qu'il a peint au bleu, blanc, rouge, la fontaine, la fameuse fontaine, l'œuvre de Mila qu'il a peint au bleu, la Vierge qu'il a mis au bleu, blanc, rouge au moment où Marine Le Pen est venue.
La Vierge qui domine la ville.
Oui, oui, voilà. C'était après le Bataclan, et donc une semaine avant le meeting de Marine Le Pen, on a vu la nuit la Vierge éclairée en bleu, blanc, rouge. On avait l'impression, on s'est encaissé dans une vallée, et la Vierge est sur la colline et surplombe la vallée. Et on avait l'impression que c'était la flamme du Front National, bleu, blanc, rouge, comme ça, qui surplombait la vallée.
Salut. On avait beaucoup d'étrangers ici. Les gens d'ici disaient pour les Polonais, ils disaient les Polacs. Les Italiens, c'était les Rital, les Macaronis. Toujours quand il y a des nouveaux qui arrivent. Maintenant, c'est eux qui voteraient presque Le Pen pour faire partir les immigrés qui arrivent maintenant. Alors qu'eux-mêmes, ils ont été accueillis dans le temps ici. Hein. Et c'est presque les plus virulents. C'est tout ça qui a amené un peu le Front National aussi. Hein. Ils ne se rappellent plus quand ils sont venus, eux.
Quand Angèle Mann a été élu, il a sorti un petit bouquin. Ça a été écrit par les gens de Riposte Laïque. Donc, dans ce livre-là, il s'était engagé à débarrasser la ville de la racaille maghrébine et de la racaille turque. Et pendant la campagne électorale, il nommait la rue principale Petit Istanbul. Là, il y avait trois kebabs dans la rue, donc ils étaient engagés à débarrasser la ville des boucheries halal et puis des kebabs. Bon, chose qu'il n'a pas pu faire parce que c'est du fantasme, mais il a fait quand même une grosse partie de sa campagne des municipales sur ce thème-là. C'est sur le même registre que Surf Ménard à Béziers ou l'autre à Hénin-Beaumont. Quoi. Enfin voilà, c'est vraiment ça qui se joue dans une ville FN.
Bon courage.
Vous ne parlez pas français ?
Non.
Albanais. C'est une dame qui vient chercher des chaussures
et du linge. Bien régulièrement. Oh ben, on a un prix dérisoire. Parce que nous, c'est pour acheter de la nourriture après.
Ah, vous achetez la nourriture et que vous distribuez ?
Parce qu'à un moment donné, on ne reçoit plus rien en fin de saison. Donc on est obligé avec les sous là de payer, d'acheter la nourriture. Ça va ?
Qu'est-ce qu'il y a là ? Il y a de la farine, des purées de mousseline, il y a des cocktails de fruits, du couscous, la tomate.
Des grosses boîtes de conserve, il y a des gâteaux, il y a du riz, il y a de la semoule, il y a du thon, des sardines, des champignons, du Mont Blanc, et un peu de tout quoi. Voilà quoi.
Vous êtes appelé comment ?
Yvette.
Et vous êtes bénévole depuis
9 ans. Je ne parle pas de politique moi. Voilà, je vais donner un coup de main.
Merci beaucoup. Bon courage.
Merci, on en a besoin.
Alors, bonne soirée, et puis peut-être une autre fois, on ne sait pas, quand on sera devant la porte. Non, mais moi, ce qui me scie, c'est qu'il a été gratté le nom. Faire ça, comme ça, dans le dos de tout le monde, quelle connerie. Hein. Ah là là, que c'est pas beau tout ça. Il y a déjà assez de misère comme ça. Mon Dieu. Bon, allez. Vous devez avoir mal au bras avec votre plumeau, là, vous.
Je voudrais pas remuer le couteau dans la plaie. Oui, mais c'est pas très beau, c'est même laid ce qu'on fait. Et pourtant, on le sait. Oui, pourtant, rien n'y fait. Ce sont les mêmes méfaits. Toujours recommencer. Et depuis qu'on est né, on a les mêmes manières. Quels que soient les aînés, difficile de faire machine arrière, le couteau dans la plaie. C'est pas nous qu'on l'a fait. Non, si on dit rien, on se laisse taper sur les mains. Le couteau dans la plaie, va falloir l'enlever. Le couteau dans la plaie, mais qui va s'y coller?
On est toujours à Ayange. Et le mercredi après-midi, c'est aussi le jour de la permanence du maire à la mairie annexe de Marchepie, juste à côté du Secours Populaire.
Et malgré les calottes, les fessées, les torgnoles, allez un verre de gnôle et reviennent les mêmes despotes. Ils ont les beaux discours, nous font croire en de meilleurs jours. Pas pour les libertés, pas pour l'égalité. Le couteau dans la plaie, va falloir l'enlever.
Bonjour monsieur. C'est ça. Bonjour. Je peux vous demander de vous présenter?
Alors Fabien Gelman, 37 ans, maire de Hayange et conseiller régional Grand Est.
Alors moi je sors là du Secours Populaire. La première chose qui est étonnante, c'est que le nom a été effacé.
Bah écoutez, on a une association qui occupe sans droit, sans bail et sans titre un local communal payé par le contribuable.
Du coup, ce que je vous demande, c'est est-ce que c'est les services de la mairie qui ont fait effacer le nom ?
Peu importe, voilà. Il reste effectivement l'enseigne des Restaurants du Cœur. Mais le bâtiment appartient à la ville, la façade également. Donc, encore une fois, on a demandé au Secours Populaire de quitter les lieux. Ils ne souhaitent pas le faire. Bon, ben voilà, maintenant, on suivra la démarche judiciaire.
Pourquoi vous leur avez demandé de quitter les lieux ?
Madame Alievi n'a eu de cesse de prendre la parole dans le journal Libération ou autre. Monsieur Schweiker, qui est trésorier du Secours Populaire au niveau local, a eu également des propos très désobligeants contre la majorité municipale. Voilà, au bout d'un moment, on a eu des discussions entre cette association et la collectivité. On ne peut pas tout accepter. Voilà, au bout d'un moment, il faut choisir. Et si effectivement il y a des bénévoles ou des responsables de comités ou de sections qui veulent faire de la politique, ils doivent partir de l'association. Je n'ai rien contre le Secours Populaire, mais on ne peut pas travailler avec cette présidente locale et avec ce trésorier. Libre à eux, ils n'ont pas voulu effectivement en tirer les conséquences. Voilà, maintenant, nous les saumons de quitter ce local municipal. Maintenant, au revoir, mesdames, messieurs.
Vous disiez également dans votre communiqué qu'ils étaient trop pro-migrants.
Quand on a effectivement des militants qui sont communistes ou très proches de l'extrême gauche et de Jean-Luc Mélenchon, effectivement, ils font de la propagande pro-migrants. sont toujours en train d'expliquer aux gens, bah, il faut les accueillir, il faut accueillir toujours plus de réfugiés politiques, il faut accueillir toujours plus de migrants. On a malheureusement des SDF français qui dorment dans la rue. Je pense qu'il faut aider ces gens-là en priorité. Et on ne peut pas, encore une fois, accueillir toute la misère du monde. C'était une phrase de Michel Rocard. Voilà.
Mais on doit comprendre notre part. C'était la suite de la phrase.
Je pense que notre part, on en a déjà largement. Là, hein. Voilà, au bout d'un moment, vous savez...
La France est un des pays qui accueille le moins en Europe, quand même.
Bon, allez expliquer ça aux personnes âgées qui ne peuvent pas se payer une complémentaire santé, alors que ces personnes-là sont logées et nourries gratuitement.
Alors qu'est-ce qui va devenir des bénéficiaires du Secours Populaire quand ce sera fermé?
On est en discussion avec quelques associations caritatives qui, effectivement, une fois que le Secours Populaire sera parti, on pourra effectivement faire une mise à disposition gracieuse à une autre association caritative qui n'est pas Fraternité Française. Encore une fois, on a eu un emballement médiatique alors que j'avais simplement discuté avec un bénévole de Fraternité Française et il n'y avait aucun engagement de signer ou de prix avec cette association que je connais peu.
Qui est donc l'association parrainée par Jeannie Le Pen et qui est bon, un peu une coquille vide, quoi. Il n'y a pas grand monde dedans, quoi. Pas beaucoup de moyens.
Je ne sais pas.
Au revoir.
Tu veux quoi, Vanille ? Vas-y. Donc,
vous êtes garé ? Je ne suis pas garé, moi, je fais tout à pied, monsieur.
Bonne journée. Au revoir.
Merci, au revoir.
Le couteau dans la plaie, va falloir l'enlever.
C'est la fin de la journée à Yange. Soir en train de tomber. Et on arrive là, à l'entrée de la ville. Il y a un rond-point avec une sculpture. Et juste derrière, il y a les anciens hauts-fourneaux. Très impressionnant, c'est la première chose qu'on voit quand on rentre. Cette espèce d'immense cathédrale industrielle. Et c'est à l'arrêt depuis 2011. Et là, on se rend en bas la bascule. On va aller retrouver Gilles Vaubédo, qui lui est à la tête de la liste d'opposition qui s'appelle Ayange, plus belle ma ville.
Ayange, c'est une ville de 16 000 habitants. Sur ces 16 000 habitants-là, il y a 6 000 personnes qui vont voter. Il y a près de 50% d'abstention, c'est énorme pour une ville comme ça. Et sur ces 6 000-là, il n'y a que 2200 personnes qui ont voté le Front National. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui le Front National qui représente à peu près 2200 à 2500 personnes sur une ville de 16 000 habitants. Effectivement, il y a des problèmes, effectivement, il y en a eu des problèmes, mais les solutions, elles ne sont pas la division, l'enfermement. Aujourd'hui, Ayange est refermée sur elle-même. Elle ne travaille pas avec les communes avoisinantes de la communauté d'agglomération. Elle ne travaille pas avec le département, elle ne travaille pas avec la région. C'est comme toute cette petite, c'est cette dizaine de villes en France qui sont des vitrines, de la promotion d'un parti. Mais en fait, qu'est-ce qui a changé réellement à Ayange? Rien du tout. On nettoie les trottoirs, on organise des fêtes, c'est du pain et des jeux, c'est du clientélisme à outrance. On fait tout pour les personnes âgées, c'est très bien. On ne dit pas qu'il ne faut rien faire pour les personnes âgées, mais on a un maire qui s'occupe de son électorat. Il passe son temps depuis 2 ans à s'occuper de son électorat au lieu de s'occuper de l'ensemble des habitants. Et ça lui a été encore reproché dernièrement sur l'affaire du Secours Populaire. Nous, à Ayange, on sait qui sont les bénévoles du Secours Populaire. Et on a vraiment du mal à les imaginer distribuer des tracts du Parti communiste. La présidente, qui est très incriminée, c'est une infirmière libérale. Dans la presse, effectivement, elle s'était indignée du fait que des enfants de réfugiés politiques n'aient pas droit au goûter organisé par la mairie. Imaginez-vous les agents municipaux qui vont distribuer des invitations dans les écoles et qui font la différence entre ceux qui sont français et ceux qui ne le sont pas. Enfin, on peut légitimement s'indigner que tous les enfants ne puissent pas participer à un goûter de Noël. Donc voilà, c'est une belle démonstration de ce que c'est que l'extrême droite au pouvoir, c'est-à-dire on marche au pas ou alors on crève. D'autant plus que la vraie contradiction de cette histoire-là, c'est qu'une association proche d'une eurodéputée FN qui s'appelle Fraternité Française, qui serait intéressée de reprendre le local. Alors, ça ne dérange personne que cette association-là soit une association succursale du Front National, mais on accuse le Secours Populaire d'être une succursale du Parti Communiste. Vous voyez le contraste, quoi, c'est affligeant.
On va peut-être rentrer, ce qui fait un peu froid.
Et pour voir et comprendre ces nouveaux visages du front, je vous recommande vivement d'aller jeter un œil aux photos de Vincent Jarousseau qui prépare avec l'historienne Valérie Igounet un roman photo sur Hayange à l'heure du Front National. Et tout de suite, on part avec Guy Vanctil quand l'action sociale se retrouve au tribunal.
Comme un bruit qui court !
Article 49, alinéa 3 de la Constitution. Notre Constitution que le peuple français s'est donné à lui-même.
Merci, monsieur le Premier ministre.
Claire Agar dans le tribunal.
La CGT ne fait pas la loi dans ce pays.
8 anciens salariés de Goodyear, dont plusieurs élus CGT, viennent d'apprendre qu'ils sont condamnés à 9 mois de prison ferme.
Il y a une augmentation de la criminalisation de l'action syndicale.
Ma porte est toujours ouverte pour le dialogue.
Après un printemps chaud, l'automne juge à froid. La semaine prochaine se tiendra à Amiens le procès en appel des 8 militants de Goodyear condamnés à la prison ferme. Une sanction où beaucoup ont vu un signe de la criminalisation croissante de l'action syndicale. Ailleurs en France, après les mouvements sociaux qui ont parcouru le pays et les heurts face au passage en force de la loi travail, vient le temps des répliques judiciaires pour beaucoup de manifestants. Comme ce procès la semaine dernière à Bobigny pour violence en réunion contre un dépositaire de l'autorité publique en marge d'une manifestation. Un cas parmi d'autres, mais que vous avez probablement entendu ici même sur les antennes de Radio France. C'est le sociologue Nicolas Jounin avec qui nous avons suivi des étudiants de banlieue en voyage de classe dans les beaux quartiers. Petit rappel.
Nicolas Jounin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et vous publiez donc aux éditions La Découverte Voyage de classe.
Alors, Voyage de classe des étudiants de Seine-Saint-Denis qui enquêtent dans les beaux quartiers, c'est un essai.
Ce matin, avec votre invité, le sociologue Nicolas Jounin, balade matinale dans les quartiers chics de Paris. Bonjour Nicolas Jounin.
Nicolas Jounin, bonjour.
Bonjour.
Maître de conférence à Paris 8, parfaitement libre dans votre parole, mais vous détestez le mot autorité.
En application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution.
Nous voici donc devant le tribunal de Bobigny où, accusé d'avoir frappé un policier, Nicolas Jounin était accompagné d'une centaine de manifestants venus soutenir son innocence et dénoncer les violences policières.
C'est pas possible, j'en avais plus que ça tout à l'heure. J'en ai pourtant un collègue d'eux.
Alors on se retrouve là devant le palais de justice de Bobigny.
Oui.
Et vous êtes en train de vous mettre des badges et des autocollants.
Jean-Marc.
Michel.
Oui, retraité CGT. Oui, moi j'étais représentant syndical pendant 10 ans dans le taxi.
Et moi j'étais à Solendi, un organisme du 1% patronal.
Expliquez-moi pourquoi vous êtes venu soutenir un enseignant, un sociologue qui aurait agressé des policiers.
Contre la répression syndicale. Le problème, on nous parle beaucoup de démocratie et de ceci et de cela, mais bon, ici, il y a une répression du mouvement syndical qui est continue depuis la loi El Khomri, c'est tout. Ça devient une répression systématique contre le mouvement social. Le gouvernement appuie toujours des mesures répressives, alors bon, Madame El Khomri, tout à l'heure, on ne l'a pas trop vue, elle se cachait bien parce que...
Qu'est-ce qui s'est passé ce matin ?
On envahit Pôle emploi, quoi.
Ce matin ?
Oui, ce matin, oui, à 9h. C'est à Pôle emploi 78 boulevard Ney à la porte des Poissonniers.
Mais elle est passée la loi, elle a gagné.
Non. Bah ça, nous on est peut-être que des ouvriers, on n'est pas censé le savoir, mais enfin quand même, on sait qu'une loi, ça s'applique avec des décrets d'application, des arrêtés, des circulaires et tout ça. Nous on va faire en sorte que bon que ça s'applique pas.
Tout est par la lutte. Hein, voilà. Si on lutte pas, il n'y a que ceux qui luttent qui gagnent.
La CGT ne fait pas la loi dans ce pays.
Je voudrais rajouter autre chose. Le 19 octobre, on part à Amiens parce que nos camarades de Goodyear sont condamnés à 2 ans, dont 9 fermes.
La manifestation jeudi sera-t-elle interdite ? Le gouvernement veut empêcher ça. Les casseurs, la violence, les destructions.
nouveau.
Il y a vraiment un tunnel de répression qui part de la police et qui arrive au tribunal. L'objectif, enfin, il y a des permanences au niveau des tribunaux pendant les manifs pour faire en sorte que le maximum de manifestants soient non seulement interpellés, sortis de la manif, mais aussi poursuivis.
Arrêtés et molestés lors d'une manifestation contre la loi travail en avril dernier, le sociologue Nicolas Jounin passe en procès la semaine prochaine.
Bonjour. Vous m'embêtez pas ? Myriam Derkaoui, maire d'Aubervilliers et vice-présidente du conseil départemental. Je fais partie de ceux et celles qui soutiennent Nicolas Jounin. Je trouve inadmissible d'accuser de simples citoyens manifestants, par ailleurs prof à l'université, reconnu pour son travail de recherche et pour sa probité. On l'accuse de choses sérieuses, mais sans fondement et sans preuve. Donc,
d'avoir agressé un policier en provoquant un jour d'ITT.
Mais bon, la justice décidera. Mais nous, notre point de vue, c'est que commencer par criminaliser avant de discuter, ce n'est pas acceptable dans une démocratie. On n'a pas intérêt à crisper dans un contexte comme celui-là davantage les valeurs citoyennes et de mobilisation.
Voilà l'avocat qui arrive. Devant le palais de justice, il y a des policiers qui me gardent la sécurité, bien entendu, mais il y a de plus en plus de drapeaux, de militants qui se retrouvent.
Elle arrive.
Bonjour, enchanté, Raphaël Kem.
Vous êtes l'avocat de Nicolas Jounin ?
Oui, il est poursuivi pour violence volontaire en réunion sur personne dépositaire de l'autorité publique. Et nous considérons, aujourd'hui, nous entendons bien le démontrer au tribunal, que le dossier n'est pas suffisamment solide et ne démontre pas cette culpabilité. Il y a eu une opération de maintien de l'ordre de la part de la police qui était disproportionnée, inutile et qui m'apparaît aux limites de la légalité. Je veux dire, on ne s'amuse pas à enfermer à ciel ouvert des gens qui veulent pacifiquement se rendre à la Bourse du Travail pour participer à une Assemblée Générale.
Parce qu'on a encore quoi pour violence volontaire ?
Écoutez, il peut théoriquement être condamné à une peine de prison ferme de plusieurs années. Comme on est en réunion avec sur personne dépositaire de l'autorité publique, je ne pense pas qu'une telle peine serait effectivement prononcée. Mais voilà, sur la question, ne serait-ce que même qu'une peine de prison avec sursis serait déjà beaucoup trop lourde. Une déclaration de culpabilité à l'égard de M. Jounin serait totalement disproportionnée et complètement contraire à ce qu'il est, à ce qu'il a fait, ou plutôt à ce qu'il n'a pas fait, et aux éléments du dossier.
Ce sont ces vidéos du 24 mars qui ont choqué. Sur ces images amateurs, un policier en civil frappe plusieurs élèves à coups de matraque. Ici, un lycéen est violemment maintenu au sol par trois agents.
Pour la quatrième fois consécutive, le gouvernement s'apprête à reconduire l'état d'urgence.
À Paris, mais aussi à Marseille, Montpellier, Rennes ou encore Dijon, depuis mars, dans quasiment chacune des manifestations contre la loi El Khomri, quelques fauteurs de troubles ont été arrêtés. Au total, sur plus de 1700 personnes interpellées dans ces manifestations, on compte 1198 gardés à vue et 95 condamnations en comparution immédiate, soit 5% du nombre total d'arrestations.
Pas trop stressé, Nicolas Jounin. Je vous retrouve là devant un palais de justice. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour se balader dans les beaux quartiers parisiens avec vos élèves, étudiants en sociologie, à faire du terrain. Et puis maintenant, c'est le terrain qui vous rattrape.
Oui, effectivement, là, c'est des lieux dont je suis plus habitué. C'est le 93, avec des services publics un peu plus lents qu'ailleurs. C'est pour ça que je suis jugé plus tard que la plupart des gens qui ont été interpellés pendant le mouvement sur la loi travail.
Est-ce que vous avez été interpellé quand ?
Le 28 avril. Donc, ça fait 5-6 mois de contrôle judiciaire à patienter jusqu'ici.
Après une journée de garde à vue et une nuit au poste, oui. Au dépôt.
Oui, voilà, tout à fait. Et donc oui, forcément stressé, content de voir qu'il y a du monde, il y a de la solidarité, puisque à travers ça, c'est un mouvement qu'on vise, quoi. Un mouvement contre la loi travail.
C'est ça, la loi travail est passée en force, mais maintenant, les répliques continuent.
Oui, effectivement, il y a encore toute cette acharnement policier et cette instrumentalisation de la justice qu'on a observée pendant le printemps, elle a ses suites jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de questions qui se jouent autour de ça. L'idée, c'est pas d'accuser la police en bloc, mais c'est de demander quel rôle on lui fait jouer. En l'occurrence, le gouvernement lui a fait jouer un rôle de dissuasion contre le fait d'aller manifester pendant le mouvement sur la loi travail. Et quand on donne un objectif aussi précis, forcément on est obligé de lâcher la bride sur les moyens et on assiste à ce à quoi on a assisté.
C'est-à-dire des violences policières. Et qui fait que vous êtes un effet collatéral.
Oui, moi je suis un des multiples au milieu d'un côté, au tout début, le lycéen de Bergson qui prend ce point dans la figure. Là récemment, donc le camarade de Sud Santé Sociaux qui se fait éborgner. Moi, je m'en sors bien. J'ai deux gros hématomes qui maintenant sont partis avec bon, une inversion classique. C'est moi qui me fais taper. On m'accuse d'avoir tapé un policier.
Bon, allez, je vous laisse. Bon courage.
Merci.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
317 personnes ont été placées en garde à vue pour une participation à une manifestation interdite.
Les clients sont sommés de garder leurs mains à plat sur les tables. Les policiers entament alors une fouille musclée de l'établissement.
Chez les maraîchers bio en Dordogne qui ont été perquisitionnés.
Des portes défoncées, des fouilles, des assignations à résidence, mais tout cela est-il toujours justifié?
Peut-être parce qu'ils ont manifesté contre Notre-Dame-des-Landes il y a 3 ans.
On a dans les médias français un alignement sur cette propagande.
Si j'ai bien compris, l'état d'urgence, ça sert à se passer de la vie du juge et l'inscrire dans la Constitution. Ça sert à se passer de la vie du Parlement et du gouvernement.
Que les gens comprennent qu'avec cet état d'urgence, ils ne sont pas plus protégés, mais moins protégés.
Divisés, écartelés,
on descend tous.
Là, c'est de la désobéissance civile, c'est pas de la violence.
On a une place énorme, une responsabilité énorme dans ce qui va se jouer dans l'avenir.
Déjà, vous remercier toutes et tous d'être venus aussi nombreux et nombreuses aujourd'hui. La dernière fois, nous étions à environ 300 et je pense qu'on est pas loin de ce chiffre aujourd'hui. Ça montre aussi la détermination autour de la solidarité qu'on doit avoir absolument avec nos deux camarades. Nous, ce qu'on dit à la CGT, c'est qu'on voit bien qu'on est sur des procès quand même politiques. Il faut appeler un chat un chat. Et un gouvernement extrêmement revanchard dans la période suite au mouvement social sur la loi travail. Donc voilà, donc il ne peut pas y avoir de conquête sociale sans liberté syndicale pour avoir effectivement des choix politiques, économiques et sociaux dans ce pays qui soient porteurs de progrès social. Voilà, sans plus tarder, parce qu'ils doivent rentrer assez rapidement, je donne la parole donc à Nicolas Junin et puis après aux camarades de Sud. Voilà.
Un grand merci. Un grand merci à Bernard Cazeneuve, Manuel Valls et Myriam El Khomri, sans lesquels je ne serais pas devant vous ici. Puis un grand merci pour votre solidarité. Je pense qu'elle témoigne du fait que tout le monde sait ici que quand on vise l'un ou l'une d'entre nous qui était au mauvais endroit, au mauvais croche-patte, au mauvais coup de tonfa, au mauvais coup de genou, c'est l'ensemble du mouvement contre la loi travail qu'on est en fait en train de viser. Donc évidemment, on espère sortir de là libre et relaxé. On espère aussi que bientôt, à notre place, il y aura la loi travail, parce que la lutte continue. On a mis le premier coup, on lui a pas réussi à lui faire la peau à travers la rue. Il va y avoir maintenant un ensemble de recours, et on espère donc qu'elle va bientôt entrer dans un tribunal et qu'elle n'en sortira pas.
Voilà. Et ben, ce que je vous propose, on va leur faire une haie d'honneur pour entrer dans le tribunal. On va les applaudir pour les encourager. On est à leur côté. Donc, je vous propose de faire deux rangées. Et on va les accompagner comme ça au tribunal. Si vous en êtes d'accord. Et on va attendre, effectivement, donc, de voir ce qui se passe et ce qui se dit dans ce tribunal.
La procureure a décrit une manifestation très violente. Selon elle, Nicolas Jounin aurait frappé un policier présent à l'audience. Ce dernier dit avoir reçu des coups, mais il n'a pas vu l'agresseur. Pour Raphaël Kempf, l'avocat du sociologue, ça ne tient pas.
Quand on parle de violence, de personnes enragées, et ce n'est corroboré par aucun des éléments du dossier. Rien à cette audience ne permet d'affirmer avec un minimum de sérieux des choses pareilles.
Mais la procureure l'a assuré à l'audience. « Je tiens à mettre tout le monde à l'aise », dit-elle. « Le droit de manifester est une liberté fondamentale ». Façon de dire que ce n'est pas ce qui est en jeu. Le tribunal rendra sa décision le 3 novembre.
Comme un bruit qui court.
Voilà, on sort tout juste de l'audience. On a entendu le policier qui a dû subir un jour du ITT. On a entendu Nicolas Jounin pour se justifier sur cette journée de manifestation du côté de Gennevilliers. On a entendu trois témoins venus attester de la violence et de la disproportion de la réaction policière. Délibéré dans un mois.
Donc voilà, on sort donc du procès donc pour la manifestation du 28 avril contre la loi travail. Il y a 8 mois de prison avec sursis qui est réclamé. Alors, il semblerait que la procureure, vraiment, elle a dit 2-3 trucs. C'était assez atterrant, je trouve, sa plaidoirie.
Oui, bah, j'ai découvert mon caractère à travers sa plaidoirie. Effectivement, j'ai découvert que j'étais enragé.
Un déchaînement de violence collective.
J'étais pris dans un déchaînement de violence collective. Hein, on était une espèce de horde, de meute à vouloir s'en prendre à la police. Bon, c'est ce qu'elle est à l'encontre de ce que racontait tout le monde, y compris le policier qui a parlé d'ambiance bon enfant à propos de la manifestation. Donc y a une volonté, de toute façon elle était arrivée, quelle que soit l'audience, je pense qu'elle aurait fait à peu près la même plaidoirie.
Vous avez l'impression qu'il y a suffisamment de doutes qui ont été abordés pendant cette audience qui vont vous bénéficier?
Moi, je sais pas, enfin, je suis à la place du juge, je vais pas décider. Je trouve que voilà, il y a un témoignage de policier qui me décrit à moitié chauve. Ça, je le conteste pas, simplement j'avais un bonnet. Ça me paraît un élément relativement déterminant, mais je suis pas dans la place du juge.
Merci beaucoup.
Donc le rendez-vous, c'est 3 novembre?
Oui, si j'ai bien entendu, c'est le 3 novembre. Bah, d'ici là, j'ai plus de contrôle judiciaire déjà. Et puis ça arrive assez vite du coup.
Du coup, vous allez pouvoir manifester d'ici là?
Bah, j'ai continué à manifester, j'ai pas eu d'interdiction de manifester, donc de toute façon j'ai poursuivi pendant tout le mouvement contre la loi travail, toujours aussi pacifiquement que ce jour-là. On réfléchit à deux fois avant d'aller manifester, on réfléchit parce qu'on sait qu'on va prendre des lacrymos, et maintenant on réfléchit, c'était la plaidoirie de la procureure, parce que si on vient, malgré tout on vient avec du sérum physiologique en se disant s'il y a des lacrymos, ben, au moins on aura du sérum, on risque de se le faire reprocher, ça risque de prouver qu'on était enragé et qu'on voulait justement se déchaîner dans la violence collective. Donc on voit bien que toute la logique qui est derrière sa plaidoirie contribue à dissuader les gens d'aller dans la rue pour manifester leur opinion.
La manifestation sera-t-elle interdite? Les casseurs, la violence, les destructions.
Moi j'aime cette maison, près de la mairie en pleine ville. Pas qu'une plein drapeau, bleu, blanc, rouge qui scintille. Cette bâtisse qui nous a vu grandir, ça représente notre passé, notre présent et peut-être ton avenir.
Je sens le vécu, l'alcool et la douille. Les uniformes se bousculent, se frottent à la rouille. C'est chez nous, et quand on vous arrête, c'est chez vous. Y'a des jouets, des matraques, des bottins et tout.
À laquelle y'a toujours des collègues pour te sourire. Et quand t'arrives en GAB, y'a toujours les fous rires. Et quand tu mens trop, y'a toujours une main tendue pour t'aider à retrouver la mémoire que t'aurais perdue.
Je te regarde te plaindre, j'ai mis à mourir.
Et moi derrière la vitrine,
j'ai trop le sourire.
Les souvenirs, ouais. L'ambiance, la fraternité, tout soudé.
Bienvenue à l'hôtel commissariat.
Bonjour.
Bonjour. C'est un petit peu intéressé, je suis le père de Nicolas. Rémi Jounin.
Donc le père d'un jeune homme coupable d'un déchaînement de violence collective avec des personnes enragées.
Tout ça serait juste ridicule, parce qu'on a bien entendu le procureur qui n'a rien, enfin qui se ridiculise. Ce serait juste ridicule si c'était pas aussi grave quand même, si on n'avait pas l'impression que c'est un pouvoir en bout de course. En plus, mon fils, il a quand même été matraqué. Ça fait des années que je suis son travail de sociologue, j'étais là le jour évidemment de sa thèse, etc. J'écoute ses interviews sur votre antenne, notamment, évidemment, les voyages de classe qu'il avait fait avec ses étudiants de Paris 8, etc. Et c'est emmerdant, un garçon comme ça, quoi, parce que effectivement, tout Paris 8 est là pour dire que c'est la douceur même, c'est un nounours, c'est quelqu'un de non violent et qui va au casse-pipe aussi, parce qu'au fond la loi travaille.
Qu'est-ce qu'il a besoin d'aller dans une manif?
Du boulot, lui, il en aura toujours. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller au casse-pipe à la loi travail? Donc tout ça, ça ne peut que déranger. Et le soir même, sur BFM, sur le plateau de BFM, où il a été traité de façon ridicule, mais c'est pas grave, mais c'est pas complètement innocent. Bon, je suis pas très inquiet en sortant, on est dans le délibéré là. Moi, j'ai tendance à penser que les choses vont bien se passer pour lui et que ce sera une relaxe. Enfin, voilà, on lui a tapé sur la tête, il a passé une nuit au poste, tout ça, ça m'énerve. Mais au bout du compte, bah, je suis toujours aussi fier de lui, quoi. Voilà, et bien joué, quoi.
Eh bien, c'est un papa fier de son fils.
Oui, complètement, oui, bien sûr, oui, absolument.
Bonsoir, Nicolas Jounin.
29 avril 2016, BFM TV.
Bienvenue, vous êtes sociologue et manifestant anti-loi travail. Hier, d'ailleurs, vous avez défilé à Gennevilliers, près de Paris, et ça ne s'est pas très bien terminé pour vous. Racontez-nous votre version des faits.
Donc c'était une manifestation non violente, il y a un dispositif de répression policière qui s'est mis en place.
Un dispositif policier.
Un dispositif de répression policière.
Tiens, c'est mot, oui.
Oui, bah c'est
votre version.
Oui, non.
Il y a chez vous une forme d'ambiguïté très claire. Est-ce que pour vous, la violence sociale que vous dénoncez permet ensuite d'en venir à une violence tout court lors de manifestations?
Bravo.
Le 19 et 20.
19-20, Goudière à Amiens, ok.
Bien, mes camarades, eh ben, on vous remercie d'être restés aussi nombreux et nombreuses cet après-midi. Hein, donc, on va rentrer tous les uns et les autres, et puis on va continuer la bataille, on reste mobilisés. Hein. Ça a été dit, le 19-20 octobre prochain, on va à Amiens, donc à la cour d'appel, donc soutenir les camarades Coudjeurs, et il y en aura d'autres. Hein. Puis bien évidemment, on reste mobilisés sur la loi travail, qui ne doit pas rentrer dans les entreprises, autour des décrets. Voilà les camarades, bah, bon retour chez vous, on lâche rien, tous ensemble.
L'état d'urgence, les interdictions préventives, la dictature française se porte mieux qu'on le croit. Preuve en est le 49-3. 49-3, dealer français.
Le 49-3 est une manière d'empêcher le débat parlementaire.
Ouais.
Parlementaire.
Et comment ?
Par des procédures que nous utiliserons jusqu'au bout.
Voilà.
Jusqu'au bout.
C'est ça.
Et quant à la procédure elle-même, elle est prévue par la Constitution.
Tout à fait.
Et elle nous a permis de faire adopter ce texte.
Ah, voilà.
Qui aurait pu l'être. Avec une majorité qui était sans doute là.
Certainement.
Mais qu'il fallait plutôt ne pas vérifier pour ne pas perdre de temps.
Exactement.
8 mois de prison avec sursis sont requis contre Nicolas Jounin. Rendez-vous le 3 novembre devant le tribunal de Bobigny pour le jugement. Et pour ceux et celles qui veulent soutenir les 8 de Goudieur qui ont fait appel de leur condamnation à la prison ferme, rendez-vous mercredi et jeudi prochain à Amiens. Nous y serons aussi. C'était Comme un bruit qui court. Juste après les infos, vous retrouvez les routes de la musique d'André Manoukian.